vais vous raconter l'histoire d'un match de tennis. Un match qui oppose deux jeunes joueurs, l'un français, l'autre espagnol. Ils ont tous les deux 13 ans et s'affrontent sous le soleil, non de Platon, mais de la ville de Tarbes, en finale du championnat du monde qui s'appelle le tournoi des petits as. Du jeune français, on dit que c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. On a rarement vu quelqu'un jouer comme ça à 13 ans. Son revers à une main notamment est une œuvre d'art, un modèle du genre, une définition même du flow. Et puis cette façon de prendre la balle très tôt, de jouer en avançant. Le champion que la France attendait, titre Tennis Magazine. Ce jeune Français s'appelle Richard Gasquet. Il gagne tout depuis des mois et en effet, ce jour-là, il gagne encore. Il remporte assez facilement sa finale contre le jeune Espagnol. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de cet Espagnol, ou plus exactement de ce regard, de ses yeux, de ce qu'il y a de ses yeux dans ses yeux quand il perd. Il y a de l'abattement, évidemment, d'autant qu'il a perdu sèchement. De l'abattement, mais pas seulement. Il y a également de la curiosité. Il vient de se prendre une raclée, mais quand même, c'est sacrément intéressant. Quoi ? On peut jouer au tennis comme ça ? Avec cette fluidité, cette rapidité, cette technicité ? Il vient de se prendre le mur du réel en pleine face, mais précisément, c'est cette résistance qui l'intéresse. Le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Mais de quoi donc est fait ce réel ? Quelle est son épaisseur ? Quelle est sa tessiture ? Quelle est sa matière ? Le match a lieu sur terre battue et l'humilité, étymologiquement, vient de humus, la terre. Mais la leçon n'est pas simplement d'humilité, elle est aussi technique. Cette curiosité, dans les yeux de ce jeune Espagnol, est une promesse de progrès. On ne se pose pas autant de questions quand on ne fait que gagner. Quand on gagne, on fête ça et on prie pour que ça dure. On essaye de répéter une recette qui marche. C'est quand ça ne marche pas qu'on se demande comment ça marche. Ainsi, la sagesse vient-elle avec l'échec ? Le succès est bien agréable, mais l'ivresse du succès ne nous enseigne pas grand-chose. Il n'y a qu'une ivresse du succès quand il y a une sagesse de l'échec. L'année d'après, ce jeune Espagnol remportera le tournoi des petits as contre ce même Richard Gasquet, et puis il deviendra le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue, et puis il remportera 20 tournois du Grand Chelem. Ce jeune garçon de 13 ans s'appelle Rafael Nadal, et ce jour-là, sous le soleil de Tarbes, il aura plus appris en une défaite qu'en 15 victoires. Pour en parler ce matin, de l'échec et du succès, et surtout de ce que c'est que progresser, j'ai la joie de recevoir celui qui se surnomma lui-même le Squall, ancien champion du monde de natation, Yannick Agnel, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon pour nous aider à répondre à cette belle question. Comment réussir ses échecs et peut-être même ses succès?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Yannick Agnel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là.
Mais c'est un plaisir, merci de m'accueillir.
Alors le Squall, pourquoi ?
Le Squall, parce que c'était une... Ça, on fait référence à l'émission juste avant sur ouais. Wikipédia. C'était une histoire d'une bande de jeunes potes qui nageaient un petit peu et qui étaient contents de voir leur première fiche Wikipédia, qui était ahurie même de voir cette fiche Wikipédia, qui se disaient « Mais attendez, on peut la modifier nous-mêmes » Et donc c'est ce qu'on a fait.
C'est resté.
Et c'est resté. Alors, il y a 75% des bêtises qui sont évidemment parties, effacées, corrigées. Et les 25% restants, eh bien, ils ont fait boule de neige.
Alors, je vous ai senti vibrer comme ça quand je racontais combien cette défaite de Rafael Nadal a été pour lui riche d'enseignements. Qu'est-ce que c'est pour vous que gagner et qu'est-ce que c'est pour vous que perdre? Alors, je précise quand même, avant qu'on écoute votre réponse, pour que tout le monde ait la mémoire rafraîchie, que vous avez tellement de titres, double médaillé d'or au JO de Londres en 2012, double champion du monde en 2013, JO de Barcelone, recordman du monde sur 400 mètres nage libre, et j'en passe, champion d'Europe, 5 médailles d'or, bref. Donc vous avez beaucoup, beaucoup gagné, mais vous avez aussi pas mal perdu.
J'ai pas mal perdu et je pense que c'est fondateur. Je crois que c'est Churchill qui disait la clé du succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme.
Vous l'avez vécu, ça ?
Alors je l'ai pas vécu directement, je crois que je l'ai vécu, mais ça on en parlera peut-être plus tard sur la fin de ma carrière. J'ai eu un début de carrière heureux, un milieu de carrière très heureux avec les Jeux Olympiques et tout le succès qu'on connaît, mais je pense que ce goût de l'effort il vient peut-être de l'endroit où je suis né, de mon cocon familial. Ouais. C'est un peu une sorte, tu sais, je suis né à Nîmes, une sorte de de bourgeoisie un petit peu qui s'ignore. Nîmes, c'est une ville qui est très protestante à la base. Moi, je suis pas protestant, je suis catholique, mais ça participe quand même de ce goût de l'effort. Et je crois que le sport et la philosophie du sport se prêtent bien à l'exercice aussi de l'absolution un peu des péchés par par le travail.
Donc ça, vous l'avez vécu quelque chose. Il fallait se faire mal un petit peu, se fouetter un peu.
Ouais, il y a eu de ça, il y a eu de ça, mais le faire avec toujours pour principe, malgré tout, dans le sport de s'amuser. Je crois que c'est de garder cette légèreté dans le plaisir de la pratique sportive.
Vous avez parlé beaucoup de être dans la zone, ce moment où ça devient facile, où ça devient fluide. Est-ce que vous pouvez nous décrire cet état, qui est une forme de Graal, et aussi comment on y arrive?
Alors, être dans la zone, j'aimerais, et puis les auditeurs nous aideront peut-être, trouver une expression un peu plus poétique, parce qu'être dans la zone, c'est littéralement la traduction de l'expression anglaise consacrée. Ouais. C'est une sorte d'état de transe quasi méditative dans laquelle on se trouve. Et en fait, c'est une zone où tout nous paraît facile, où on paraît entre guillemets marcher sur l'eau, sans mauvais jeu de mots. Mais pour atteindre cet état-là, je crois qu'il nous faut une dizaine d'années de souffrance en amont.
Il faut peut-être avoir traversé et des succès progressifs et aussi des échecs.
Bien sûr.
Est-ce qu'il y a dans l'échec une expérience qui humanise davantage que dans celle du succès, qui nourrit davantage?
Je crois que l'échec nous pousse à nous remettre en question. C'est là toute la vertu de l'échec. Et je crois que les très grands champions ont cette capacité à se remettre en question. Peu importe que ce soit un échec ou une victoire. C'est la seule partie de l'édito sur laquelle j'ai tiqué, parce que je sais que nous, peu importe la qualité de la course qui venait de se dérouler, on prenait une trentaine de minutes juste après pour dire voilà quels sont les axes d'amélioration possibles et d'aller toujours de l'avant.
Vous voulez dire qu'au fond, que ce soit un échec ou un succès, c'est dans les deux cas une expérience à analyser?
Exactement.
Est-ce que vous avez eu parfois une peur de l'échec, néanmoins, qui a été invalidante?
Je crois pas. Je crois pas parce que je crois que j'ai jamais assez pris le sport au sérieux pour ça.
Ça veut dire qu'au fond, quand vous étiez dans l'entraînement intensif, il y avait un détachement quelque part, quand vous dites que vous ne le preniez pas au sérieux. Vous étiez là et en même temps un peu pas là.
Exactement. Ouais, tout à fait. Alors je dis pas que j'étais en train de réciter mes cours quand j'étais en train de nager et vice versa. J'essaie d'être dans le moment présent et d'être à fond dans ce que je fais. Je crois que c'est ce qui fait la différence quand on est sportif de haut niveau. C'est d'être à fond dans l'entraînement et de pas être juste avec les clés sur le moteur à faire tourner le moteur et perdre de l'essence, mais bien d'avancer. Alors même chaque entraînement peut être source de victoire ou d'échec, et je crois que c'est ce qui nous fait apprendre. Et nous, on avait 6 à 8 heures d'entraînement par jour, donc l'idée c'était de se préparer en amont et d'arriver le jour de la compétition sans surprise. Le rôle du sportif de haut niveau et de l'entraîneur évidemment, c'est de minimiser l'aléatoire, on va dire.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites d'un côté, je suis à fond dans l'instant présent, et puis vous avez dit juste avant, en même temps, j'avais un détachement qui fait que je me mettais pas trop la pression et je pouvais pas avoir une peur de l'échec qui soit trop bloquante. C'est intéressant ce mélange quand même. Comme si vous pouviez être à la fois très présent et en même temps avec le sentiment que l'essentiel est ailleurs. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce point?
Je crois que c'est une... Je ne sais pas si c'est une qualité. En tout cas, c'est un attribut qui est présent chez ceux qui réussissent. En tout cas, dans le sport, c'est ce que j'ai observé chez vraiment les très grands champions. Alors là, je parle de Michael Phelps, etc.
Dans votre champ, parce que vous avez quand même commencé par le tennis.
Exactement. Commencé par le tennis. Je crois que quand la clé de la réussite, en tout cas en ce qui me concerne, c'est d'arriver à faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Alors après, il me faudrait développer pendant quelques minutes et y réfléchir et ça créerait un blanc sur France Inter et ce serait pas souhaitable. Je sais pas ce que je pourrais dire de plus à ce sujet.
Vous avez raconté que quand vos parents ont divorcé à l'âge de 11 ans, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a nourri la force de votre mental.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Après, juste après ça, mon départ à Nice, c'est ça? Mon départ à Nice, ça s'est passé, oui, deux, trois ans après ça, effectivement. Et ça a été pour moi extrêmement formateur. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à me gérer plus ou moins tout seul, à être en responsabilité à 14 ans, quoi, à vivre dans un appartement en colocation avec quelqu'un qui était plus âgé que moi et on va dire un petit peu moins rigoureux sur les finances, le ménage, etc., etc. Donc derrière, il a fallu gérer une partie de tout ça tout seul. Et puis de notre côté, ça a été une libération aussi, une émancipation en tout cas. Ouais. Qui était bienvenue à ce moment-là, puisque j'ai retrouvé une certaine stabilité émotionnelle, on va dire, qui m'a permis derrière de
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques. Enfin,
alors nous sommes toujours avec Yannick Agnel sur France Inter, on est le 14 juillet. Je vous voyais sourire pendant cette chanson d'Anne Sylvestre, les gens qui doutent. Est-ce que vous avez eu des moments comme ça de doute, où ça a été difficile, où vous vous êtes demandé pourquoi vous faisiez ça, pourquoi vous vous entraîniez tant de temps dans un bassin, c'est énorme, 7-8 heures à nager par jour.
Le doute, il est présent, je dirais pas peut-être presque tous les jours, mais c'est vrai que dans un bon mois de février à 5h30 du matin, lorsque vous êtes 3-4 pauvres pèlerins devant la piscine, que vous savez qu'elle va être juste glaciale parce que la machinerie tout a capoté dans la nuit, c'est vrai que il y a des instants de doute où vous vous dites mais pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi est-ce que je fais ça
et dans ce cas-là on s'accroche à quoi, on retrouve quel sol?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est le fait de vivre des instants extraordinaires. On le sait dans l'été parce qu'on va participer à des championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux olympiques, voyager de partout dans le monde, rencontrer des gens extraordinaires qu'on n'aurait pas eu la chance de rencontrer si on avait mené une existence, on va dire, un peu plus tranquille. Et puis, je crois que ce qu'il y a d'encore plus fort, c'est le fait de savoir qu'on va retrouver des amis au bord du bassin et des gens pour qui on donnerait tout si ça se passait mal.
Parce que ce qui est très particulier, c'est que c'est un sport individuel et en même temps vous êtes tout le temps en équipe.
Oui, on s'entraîne tous ensemble en permanence, filles et garçons d'ailleurs. C'est un des rares sports où les femmes et les hommes s'entraînent ensemble et où parfois les femmes, ça arrive très souvent, sont les poissons pilotes.
C'est ça. Alors vous avez tout à l'heure dit quelque chose et je vais mettre quelques secondes ma casquette de professeur pour montrer la sagesse qui est la vôtre. Vous avez dit voilà, il faut sortir au fond de l'opposition un peu dichotomique entre échec et succès. Dans les deux cas, il y a quelque chose à en tirer. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire voilà, ce que l'échec dit de moi, c'est ça. Ce que le succès dit de moi, c'est ça. C'est plutôt comment je vais questionner l'échec, comment je vais questionner le succès et qu'est-ce que je vais en faire. C'est exactement finalement la philosophie sartrienne, hein, existentialiste et non pas essentialiste. Quand on est essentialiste, on interprète l'échec comme nous donnant une essence de raté. Et quand on est essentialiste, on interprète le succès comme nous déterminant dans une essence de winner. Eh bien vous, ce que vous avez dit, c'est de l'existentialiste. La question, c'est pas qu'est-ce que je suis, mais c'est qu'est-ce que je vais devenir. Au fond, qu'est-ce que je vais faire de ce succès? Qu'est-ce que je vais faire de cet échec? Merci beaucoup Yannick Agnel pour cette philosophie existentialiste. On va écouter Neil Young et après revenir à votre sagesse du zen.
Thank you.
C'était Neil Young, Heart of Gold.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Yannick Agnel, le Squal, ancien champion du monde de natation, aujourd'hui conférencier, enseignant. Et on était en train de questionner ensemble ce que j'appelle la sortie de la pensée dichotomique. Il n'y a pas d'un côté échec, d'un côté succès. La vie, c'est pas ça, il n'y a pas que deux cases. Alors on est habitué à entendre parler d'un échec qui peut être vertueux, parce qu'il permet de comprendre, de rebondir, de bifurquer. On est moins habitué à entendre parler d'un succès qui comporterait une face sombre.
Oui, et puis... pourtant, ça a été le cas tout au long de ma carrière. Alors, à partir, je crois, du moment où d'ailleurs où j'ai arrêté les études en me disant, je vais me lancer à fond vraiment dans le sport de haut niveau. C'est ce qui m'anime pour les années qui arrivent. Et de toute manière, je pourrais pas faire des études et puis du sport de haut niveau. Mieux vaut faire l'inverse. Donc, à partir du moment où j'ai commencé, j'ai fini par me lever natation, manger natation, m'endormir.
Vous voulez dire que
natation.
Ça a eu un coup et que dès vos premiers succès, il y avait un revers de la médaille, il y avait quelque chose qui était perdu, lors même que vous gagniez.
Exactement. Ça a été compliqué. Puis la relation avec mon entraîneur à ce moment-là, c'est grandement détérioré. Et ce que peu de gens savent, c'est que sans m'apesantir là-dessus, parce que ça a été un grand bonheur. Évidemment, mais lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, les relations étaient quand même plutôt tendues avec mon entraîneur derrière. J'y ai laissé une partie de ma santé, puisque derrière, j'en ai fait un burn-out un an et demi après, à peine.
Et donc puis, vous voulez dire que ça a été compliqué. Vous avez une double médaille d'or, quand même, et juste après, vous en payez le prix.
Quand je vous dis juste après, c'est de l'ordre de quelques minutes après, puisque j'aurais pu le vivre de meilleure manière, en tout cas en ayant des relations plus apaisées avec mon entraîneur. Mais je pense que il y a eu une sorte de, puisque c'est le mot consacré de ces derniers mois avec ce Covid, du quoi qu'il en coûte.
Ouais. Vous avez été dans une sorte de burn-out, comme le prix à payer de la victoire. Un burn-out que vous qualifiez parfois de physique. Il peut être physique et pas psychique en même temps?
Alors là, il faut demander aux gens plus qualifiés que moi sur le sujet du burn-out. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, je l'avais pas identifié au moment où c'est arrivé. Je me suis levé un matin, j'ai plongé, et puis, au moment où je devais me donner à 100%, j'avais plus que 70% de disponibles. Et ça, je l'ai pas nécessairement identifié. J'ai continué à me lever, à me forcer, en tout cas tous les matins, à y aller malgré tout, malgré la fatigue, parce que, justement, je pensais que tout ça allait se tasser, jusqu'à ce que je lise un article un beau matin d'un de ces types qui bossait à la Défense. Et qui en fait sur le quai du métro a jamais pu rentrer dans le métro parce que il avait l'impression d'avoir une sorte de mur de verre en face de lui, de mur invisible qui l'a complètement tétanisé, empêché de rentrer. Et c'est ce que je ressentais moi tous les matins en me levant. Donc je me suis dit tiens, il y a peut-être une histoire de burn-out.
C'est quand même incroyable de ressentir ça juste après un triomphe. C'est ce qui est arrivé à André Agassi quand il est devenu numéro un mondial. Il a fait sa dépression juste après. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on a atteint une forme de Graal, on se demande encore pourquoi se battre? Est-ce que ça veut dire que finalement, on comprend qu'en fait, ce n'était pas le Graal, qu'on avait tellement fantasmé, mais que finalement, au fond, ça n'est que ça? Ben voilà, c'est juste une médaille d'or, quoi. C'est pas le but d'une existence non plus. Qu'est-ce qui s'est passé, au fait?
Je crois que ça a été tellement difficile d'arriver jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres, d'arriver jusqu'à ce Graal et d'arriver à le décrocher. Que déjà en amont, dans tous ceux qui étaient présents dans le groupe et paix à son âme Camille Muffat notamment, on se disait écoute, si jamais on réussit à récupérer cette médaille d'or, derrière on se met les doigts de pied en éventail, caille Pirinha, les pieds dans le sable, et puis on n'en parle plus et on prend minimum 6 mois, 1 an,
on profite
pour profiter. Et puis je pense pour se poser les bonnes questions de pourquoi est-ce que je dois y retourner, est-ce que j'en ai vraiment envie et comment est-ce que je dois le faire. Et malheureusement, lorsque vous récupérez cette médaille d'or, lorsque vous la gagnez, la dernière des choses dont vous avez envie, c'est de prendre 6 mois, 1 an de coupure, de vacances, et 2 semaines après, en fait, on était de retour dans le bassin pour s'entraîner et pour préparer la saison suivante. Et je pense que ça nous a coûté effectivement à ce moment-là d'être trop jeune pour se rendre compte qu'il nous fallait du temps, qu'il nous fallait prendre le temps. Et là, je pense que c'est une autre qualité des très très grands champions, dont par exemple un Florent Manoudou fait usage. C'est la capacité à savoir malgré tout ce que l'on veut et la capacité à savoir dire non.
Et puis aussi à savoir se reposer, à savoir qu'il faut du moment de battement pour qu'il y ait un moment de plénitude, que c'est la loi même de l'être finalement. On peut pas être tout le temps dans l'intensité.
Et c'est comment dire, c'est un peu un oxymore quand on parle des sportifs de haut niveau, puisqu'être sportif de haut niveau, c'est être dans l'extrême tout le temps, c'est être déséquilibré du matin au soir.
Vous en venez justement à une réflexion sur la performance. Et d'ailleurs, vous intervenez dans une école de e-sport où vous accompagnez les meilleurs joueurs du monde en termes de jeux vidéo et vous les accompagnez dans un entraînement physique, psychologique, mental. Vous les invitez justement à faire du sport réellement pour être meilleurs dans le jeu vidéo. Ça veut dire que vous avez compris quelque chose, peut-être, de ce qu'est une performance et de comment peut-être réconcilier la performance avec quelque chose de plus humaniste.
Je crois qu'on peut pas être performant. On peut être performant sur le court terme et avoir derrière des heures un petit peu sombres. Moi, ça m'est arrivé. Ce que je veux pour ces gamins-là, ces joueurs professionnels de jeux vidéo, c'est qu'ils puissent être performants du mieux possible et qu'ils puissent l'être le plus longtemps possible, qu'ils puissent profiter de leur passion le plus longtemps possible. Et pour ça, ils doivent être équilibrés dans leur quotidien et avoir cette performance à la fois sur leurs jeux vidéo, ouais, mais aussi en dehors, c'est-à-dire un suivi nutritionnel, médical, psychologique, qu'on soit nous évidemment en relation avec les parents, puisque ce sont souvent de jeunes gens. Donc c'est important d'avoir cette cellule familiale qui les soutient et qui comprend évidemment leur environnement. Moi, j'ai eu la chance que ça soit le cas, puisque mes parents étaient vraiment baignés dans le milieu du sport depuis toujours. Je sais que c'est important. Et sans oublier l'école, évidemment aussi.
Alors, nous écoutons la bande originale d'un jeu vidéo que vous connaissez bien.
Alors, qu'est-ce que c'est ça exactement? J'arrive pas à...
Vous reconnaissez? C'est le jeu vidéo qui s'appelle...
Alors, ça...
C'est celui...
Qu'est-ce que ça pourrait être,
Tsushima,
ça?
Non.
Ah, Ghost of Tsushima.
Ghost of Tsushima, exactement.
Ghost of Tsushima, ouais. Oh oui, effectivement, j'y ai passé quelques longues heures l'an passé.
Et alors, j'ai découvert que c'est par ce jeu vidéo que vous étiez arrivé à la sagesse zen, à la littérature japonaise, à quelque chose qui finalement s'est mis à rappeler l'espèce de flow que vous aviez atteint quand vous étiez un sportif de haut niveau. Et une volonté, au fond, de réconcilier quelque chose de méditatif avec une logique de performance.
Je crois que, alors, en tout cas, ce jeu vidéo-là m'aura fait découvrir les haïkus, et on s'est empressé avec tous mes potes avec qui on jouait à ce jeu d'aller acheter les anthologies de Basho, de Ryokan, d'absolument tout le monde. Donc, comme quoi le jeu vidéo est, je pense, à la confluence de plusieurs arts et peut mener à tout. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ça fait du bien de le rappeler sur les antennes un peu plus traditionnel, on va dire.
Et vous avez un haïku en tête qui vous guide, que vous avez découvert, une espèce de beauté ramassée comme ça.
Il y en a plusieurs. Le problème, c'est que j'ai du mal à m'en souvenir. Je me souviens que des haïkus dont on peut pas citer grand chose à l'antenne.
Si, allez-y,
c'est assez, non, c'est des bêtises. Ce que je sais en tout cas, c'est que je me suis toujours senti proche de cette philosophie bouddhiste, zen, parce que justement il y avait cet aspect méditatif dans la natation, et dans la natation il y a cet aspect aussi du silence. C'est le monde du silence. On est forcé de se taire, ou alors quand on crie, le cri est étouffé. donc je crois que j'ai toujours été proche effectivement du zen.
Vous voulez dire que même dans un bassin l'hiver avec du chlore, vous aviez retrouvé quelque chose d'une vérité liquide, d'une vérité première peut-être de l'être humain, quelque chose d'une joie liquide originelle?
Oui, je pense qu'il y a de ce liquide amniotique un petit peu dans le dans l'eau chlorée malgré tout. Et puis même quand il fait froid, même effectivement en plein hiver, en plein mois de février, quand l'eau est gelée, je crois que les moines zen ont aussi une certaine discipline. Je crois qu'il faut une certaine discipline pour atteindre entre guillemets l'éveil. Ouais.
Alors justement, votre histoire est celle d'une métamorphose. Le squale devient moine zen. Si on prend comme ça ce chemin et qu'on essaye de le regarder avec dans le rétroviseur, est-ce que vous voyez des moments soit dans les victoires qui vous ont révélé quelque chose de vous-même, soit dans les défaites qui ont été riches d'enseignements?
Tout a été riche d'enseignements. Dans les victoires, pour revenir sur celle de Londres en 2012, puisque c'est celle qui a eu le plus d'écho, je me suis découvert de la famille, hein, des cousins éloignés qui d'un seul coup se sont rappelés à moi, voilà, au 18e degré, et il fallait absolument qu'on se voit ici et tout ça. Donc je pense que ça appelle quelque chose un peu de finalement de bon, peut-être pas de la sagesse, mais de l'humilité en tout cas, et puis d'essayer d'être assez transparent dans la personne que l'on est aussi dans les médias. Je pense que c'est important.
C'est-à-dire
je pense que c'est important de pas jouer nécessairement un personnage, de peur peut-être de se retrouver enfermé dans un rôle qui est pas le nôtre, et c'est l'habit fait parfois le moine quand même, malgré tout.
Vous avez raconté quand même qu'il y avait des moments incroyables dans l'antichambre d'une grande compétition, quand l'excitation monte, quand il y a un bruit incroyable, assourdissant, et que finalement, il y a un temps pour tout et que vous arrivez très bien à vivre sans ça.
Je crois que c'est la seule chose qui me manque, malgré tout, cette adrénaline. Effectivement, j'avais l'impression qu'on était des sortes de gladiateurs avant d'entrer dans l'arène, quoi, à entendre la clameur de la foule, et tout ça, ce sont des moments extraordinaires que je garde dans mon cœur, mais effectivement, il y a un temps pour tout. Je souhaitais m'arrêter jeune parce que je savais, je considérais déjà depuis mon adolescence que le sportif de haut niveau a une date de péremption.
Vous avez quand même arrêté très jeune, plus jeune que les autres.
Oui, à 24 ans.
Qu'est-ce que vous avez senti comme ça, comme nécessité? Pourquoi arrêter alors qu'on est au top? Enfin, vous avez connu un échec, je crois, en 2016 au JO de Rio de Janeiro. Vous avez été éliminé d'entrée.
Ouais,
mais c'est pas ça, je crois, qui vous a décidé à arrêter.
Non, j'étais décidé avant. Je crois que vraiment il y avait un temps pour tout. Je m'étais toujours dit que le jour où je ne prendrais plus de plaisir à nager, à m'entraîner, et où en tout cas j'aurais plus de plaisir à découvrir et à aller explorer d'autres domaines, eh bien ce jour-là, je me ferais pas prier et je m'arrêterais, et puis j'entamerais d'autres choses. Je voulais aussi ne pas être, et ça c'est un aspect peut-être un peu plus égoïste, je voulais pas être catalogué dans un rôle qui moi me convenait pas. Je me suis jamais considéré comme un sportif de haut niveau uniquement, comme un nageur encore moins. Je savais que j'avais plus à offrir au monde, en tout cas de manière encore une fois très très égoïste, hein, que ces émois sportifs là, et donc je voulais explorer ça et en tout cas essayer d'avoir une légitimité autre que celle du sportif de haut niveau par la suite.
Ouais. Et finalement, vous avez eu cette force de réussir à vous écouter au fond, à faire confiance au fait de vous écouter, de sentir que vous ne vouliez pas être réduit à ça au fond. Peut-être c'est ce qui manque à d'autres et c'est ce qui crée le burn-out. C'est cette incapacité à s'écouter finalement.
Oui, alors c'est difficile de jeter la pierre quand on est pris dans un engrenage et qu'on a l'impression que l'on doit à des gens, que l'on doit. Et je crois que c'est cet engrenage-là qui a fait qu'à un moment donné j'ai subi ce burn-out, parce que je suis parti aux États-Unis, parce que à ce moment-là j'avais l'impression d'avoir cette seconde chance et que je ne pouvais pas la louper et que je me devais, en plus avec l'argent que j'y avais engagé à l'époque, de réussir, ou en tout cas d'aller jusqu'au fond de cette expérience, de cette saison-là. C'est un peu comme quand vous prenez un jus d'orange au restaurant, que vous vous rendez compte qu'il est absolument dégueulasse, mais que vous vous forcez à le finir jusqu'au bout parce que vous l'avez payé. Alors ça n'a pas été le cas de mon expérience américaine jusqu'au bout, parce qu'en fait j'en ai retiré des choses extraordinaires. J'ai toujours voulu vivre cette American way of life, et leur philosophie du sport me convenait beaucoup mieux que c'est la philosophie du sport qu'on avait à Nice, qui était plus stakhanoviste, plus froide. Je dis pas que on s'amusait.
Mais c'est intéressant,
pas,
mais qu'est-ce qu'il y avait de différent là-bas? Parce que nous, on pourrait imaginer, si on n'y connaît rien, qu'ils sont encore plus stakhanovistes, encore plus volontaristes, mais en fait, non.
Ils sont plus décomplexés, je pense.
Ouais.
Y a moins de barrières. Je crois que la grande différence qui existe entre le sport en France et le sport aux États-Unis, c'est, en tout cas pour les sports olympiques, cette relation un peu sacralisée entre l'entraîneur et l'entraîné. Et on a l'impression que si un jour on la brise, plus rien ne fonctionnera derrière. Alors que quand vous arrivez aux États-Unis, vous vous rendez compte que il n'y a pas un entraîneur. En fait, il y a un entraîneur, un assistant coach, le porteur d'eau de l'assistant coach de l'entraîneur, le kiné qui gravite autour du bassin, et puis il y a une certaine énergie aussi, une certaine j'appelle ça une sorte de méthode couée, mais qui participe. Tous les gens qui sont partis aux États-Unis sauront de quoi je parle. Quand vous rentrez dans un magasin, la personne va vous demander directement « Alors, salut, comment ça va, la famille, etc. » Vous êtes très surpris en vous demandant « Mais vraiment, il me demande comment va ma famille, est-ce qu'il s'y intéresse vraiment ?»
Je sais
pas.
Pose.
La question se pose. C'est pas qu'il s'y intéresse vraiment ou pas, c'est que en tout cas, il y a une énergie qui participe de tout ça qui est très intéressante.
On va écouter Barbagallo, Regarde. C'était Barbagallo, Regarde.
Sous le soleil de Platon.
Par contre, moi, je me verrais bien champion du monde. De quoi?
Je suis pas encore champion du monde.
Mais de quoi?
Je suis pas champion. Mais du monde.
Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Yannick Agnel, ancien champion du monde, qui nous raconte son parcours, notamment ce moment où vous avez quitté la France pour être entraîné aux États-Unis. Vous êtes passé de votre relation avec l'entraîneur français Fabrice Pellerin à l'entraîneur américain Bob Bowman, qui a été celui de Michael Phelps. Et vous nous racontez que finalement, vous avez eu envie de sortir d'une forme de presque d'infantilisation. En France, on s'occupe de vous, alors que là, vous choisissez votre entraîneur, vous le payez, vous avez toute une équipe, et au fond, vous prenez en main, quelque part, la responsabilité de vos succès, quoi.
Je crois que c'est le mot, c'est vraiment la responsabilisation qui fonctionne aux États-Unis, c'est-à-dire que à un moment donné, vous êtes en France et on vous décrit ligne par ligne l'entraînement, mais le contenu de l'entraînement, mais pas avant que vous l'ayez atteint. Ouais. Et là, vous arrivez aux États-Unis et en fait, vous avez la fiche complète avec l'entraînement. Et puis, démerdez-vous. Si vous avez envie de le faire à fond, vous le faites à fond. Il ne tient qu'à vous de réussir et de suivre les directives, mais en tout cas, voilà, vous payez pour un service. Ouais. Et puis derrière, vous en faites ce que vous voulez. Je crois que ça a trois vertus quand même fondamentales par rapport à la manière dont on a en France de concevoir l'entraînement, le sport de haut niveau en tout cas, la relation avec l'entraîneur. La première, c'est que j'ai jamais été en retard aux entraînements.
Vous étiez en retard en France avant ?
Non, j'étais pas en retard, ouais. mais là, ça vous pousse à pas être en retard. Le deuxième, c'est qu'en fait, l'entraîneur, lui, n'est jamais en retard non plus à l'entraînement. Et ouais. La troisième, c'est que il y a une forme de détachement malgré tout, parce que on est en permanence dans l'extrême, dans l'excès, dans l'excellence aussi. Il y a de l'excès dans l'excellence qui permet, je pense, de durer vraiment sur le long terme aux États-Unis et qui est un peu plus complexe que ça en France.
Et pourtant, vous avez finalement arrêté assez peu de temps après, je dirais en gros 2-3 ans après avoir gagné ces 3 médailles d'or, après avoir fait ce burn-out. Vous parlez d'excellence, vous avez atteint cette excellence en tant que nageur. Vous parlez d'une excellence qui n'est pas simplement technique, qui est aussi humaine, qui est aussi relationnelle, et ça fait du bien d'entendre ça. Mais quand même, est-ce que cette excellence, vous arrivez à la trouver maintenant que vous n'êtes plus nageur, dans ce que vous faites, dans vos conférences, dans la manière dont vous accompagnez en banlieue les jeunes dans les quartiers en leur apprenant à nager, dans la manière dont vous essayez d'apporter à ces compétiteurs de jeux vidéo quelque chose comme un équilibre un peu sage et zen ou méditatif. J'imagine que c'est pas facile, quoi, de retrouver ce niveau d'exigence et ce niveau d'excellence.
Je crois que j'ai été un peu comme un Siddhartha un peu pendant ces dernières années, à essayer de picorer un petit peu partout pour trouver ma propre voie. Ouais. Et je crois que j'ai fini par la trouver par effet d'entonnoir. C'est le partage. Ouais. Le partage, d'essayer de partager aux autres, et c'est presque une impression de, j'ai presque l'impression d'avoir trop reçu, alors il faut absolument que je partage cette expérience passée avec les autres et que je fasse profiter aussi de tous ces succès aux générations futures. Alors évidemment, quand on parle des quartiers, on essaie d'apprendre à nager à un maximum de jeunes gens, parce ouais. qu'aujourd'hui on a une problématique de la noyade, et qu'ancien sportif de haut niveau, ancien nageur de haut niveau, on peut pas faire autrement. Sur le jeu vidéo, c'est pareil, ça participe, c'est une de mes passions. Je suis né avec une manette entre les mains, donc l'idée, c'était de pouvoir humblement les accompagner à mon niveau, parce que je sais faire. Pas dans le jeu vidéo en lui-même, mais dans tout ce qu'il y a autour.
Parce que ce qu'il faut bien préciser pour les gens, c'est que vous les invitez à développer leurs compétences réelles, en fait, dans le monde réel, physique notamment, pour qu'après ils reviennent aux jeux vidéo avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de leurs limites aussi.
Je pense que c'est important d'être équilibré, d'avoir toutes les cartes en main. Si vous faites un petit peu de sport, un peu d'effort physique tous les jours, vous allez être en meilleure santé, et donc vous risquez moins la blessure, vous risquez d'avoir un taux d'énergie qui sera supérieur à celui que vous auriez si vous ne faisiez strictement rien.
Yannick Agnel, est-ce que vous pensez que c'est toujours pertinent de distinguer le physique et le mental ?
Je pense que c'est un vieux couple. C'est ouais. un vieux couple, et que comme dans tous les vieux couples, parfois ça fonctionne, et parfois il y a des frictions. Non, je pense que j'ai essayé de le faire ouais. Un temps, mais évidemment l'un ne va pas sans l'autre.
Parce que finalement, vous proposiez au début de l'émission de sortir d'une pensée dichotomique en disant voilà, il n'y a pas d'un côté échec et succès. Il y a des échecs qui nous enseignent beaucoup de choses. Il y a des succès qui sont accompagnés d'échecs. Parfois, on réussit en se comportant mal. Parfois, on réussit en n'étant pas brillant, mais juste meilleur que les autres. Mais là, par contre, vous restez dans le dichotomique. Il y a le corps qu'on cultive et le mental qu'on entretient. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, on pourrait là aussi, en fait, sortir de la pensée dichotomique et se dire que peut-être il y a des choses qu'on règle en ne pensant pas que c'est une question de mental ou une question de physique.
Si, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il faut prendre la performance, c'est un tout. Puisqu'on parle de performance, ouais. ou même de partage, ou c'est un tout. C'est à la fois le mental et le physique. Je suis tout à fait d'accord.
Mais ouais. La performance, vous gardez le mot. Il n'est pas un peu trop technique. Il porte pas un peu trop de rapport de force. Quand on voit la sagesse que vous évoquez, le moine zen que vous évoquez, c'est quelqu'un quand même qui laisse les choses se faire finalement.
Je faisais référence à toute la natation et au sport de haut niveau. C'est la raison pour laquelle je pense beaucoup. Les conférences, notamment en entreprise, ouais. Fleurissent en ce moment. C'est que quand on parle de performance, de compétences, en tout cas dans le milieu de l'accès à la performance, ouais. C'est transversal. Entre le sport de haut niveau, les entreprises, même la manière dont Thomas Pesquet va sûrement préparer son voyage et son séjour dans l'ISS, tout est transversal. Maintenant, je dirais que la performance en soi m'intéresse moins que d'arriver à peut-être effectivement mieux vivre, mieux me comprendre. J'ai pensé en arrêtant ma carrière, j'ai quand même réfléchi pendant et je continue à réfléchir pendant de longs mois à ce que j'ai vraiment envie de faire, ce que j'ai envie ouais. d'être et ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Quand je me suis arrêté, je me suis dit bon, le niveau d'adrénaline qu'on reçoit en étant un sportif de haut niveau quand on est aux Jeux Olympiques, à part, pour le reciter encore une fois, à part être Thomas Pesquet ou Emmanuel Macron, c'est quand même un peu compliqué au quotidien. Peut-être en étant entrepreneur, à la limite. Ouais. Et je me suis rendu compte au final que j'essayais de le retrouver et je me suis rendu compte que j'en avais plus besoin, ou en tout cas, c'était plus ce qui me faisait me lever le matin en me disant « mais chouette ouais. ». C'est vraiment ce qui m'anime.
Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a troublé, et je me suis dit, mais en fait, oui, c'est... Vous avez déjà crié sous l'eau ?
Oui, oui, oui.
C'était un cri de joie ou un cri d'effroi ?
Les deux.
Racontez-nous.
Les deux, ça m'est arrivé pas mal de fois. Des fois où tordez un petit peu le destin que tout le monde veut vous prêter, quand on vous dit là vous allez vous casser la figure et que vous réussissez malgré tout, je me suis caché sous l'eau à trois mètres sous la surface pour aller crier un bon coup ouais. En me disant voilà je l'ai fait, et puis d'autres fois où ça fonctionne pas du tout et où là effectivement ouais, j'ai déjà eu des larmes dans les lunettes, ça c'est sûr.
Alors Yann Canel, je vous propose un petit quiz. Alors c'est des réponses courtes, il n'y a pas de piège, c'est juste pour vous rencontrer un peu autrement. Yannick Agnel, joie ou bonheur ?
Ah, bonheur, oui.
Pourquoi ?
Parce que là, j'ai le sentiment que la joie, c'est éphémère. C'est peut-être ma conception, ma définition du mot.
Est-ce que vous pensez que cette joie, ou plutôt ce bonheur, il est plutôt de nature liquide ou solide ?
Liquide.
Virtuel ou réel ?
Réel.
Physique ou mental ?
Allez, on va dire les deux.
Orelsan ou Booba ?
Oh, Orelsan.
Pourquoi ?
J'aime pas le... Alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais j'aime pas toute la mythologie qu'on a créée autour de Booba et qui est très largement surcotée, je pense.
Je sais pas pourquoi mes invités choisissent toujours Orelsan. L'eau ou le feu ?
Je vais être là où on m'attend pas, mais je crois que je serai au milieu des deux. Je crois que l'eau... L'eau a besoin du feu et vice-versa.
Performance ou excellence ?
Excellence.
Une pièce ou deux pièces ?
une pièce, mais à double face.
Ah, perso ou collectif ?
Un collectif, toujours.
Alors justement, Yannick Agnel, venons-en à un sujet sur lequel vous intervenez beaucoup comme conférencier. Visiblement, vous avez appris, quand vous nagiez, à gérer le collectif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des trucs très compliqués dans les relations humaines, quand on est une équipe comme ça, 8 heures par jour sur un bassin. Et c'est ça que vous enseignez en quelque sorte aujourd'hui, gérer les personnalités difficiles, réussir à être ensemble, alors qu'on est tous différents et qu'on est des singularités avec des égos. Alors c'est quoi le secret de l'être ensemble que vous enseignez en tant qu'ancien champion du monde et coéquipier ?
Je pense que à chaque fois j'ai la chance d'avoir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font déjà et qui vivent dans un domaine qui est quand même très particulier. C'est pas donné à tout le monde en tout cas, et donc de cette entreprise humaine là, tout le monde est d'accord sur l'objectif à atteindre. Ouais. De cette entreprise humaine. Et donc là, c'est beaucoup plus facile de se lever tous les matins en se disant je veux être champion du monde de League of Legends, de Fortnite ou de natation. Que parfois en se levant dans des bullshit jobs où vous êtes manager et où les choses semblent plus trop tangibles.
Et donc comment on fait dans ce cas-là pour réussir à travailler ensemble, retrouver cette fluidité pour laquelle vous militez tant ?
Alors on risque d'y passer une heure ou deux. Mais je pense que le principal c'est d'être à la fois exigeant et tolérant. Tolérant envers les autres, c'est un truc que j'ai pas réussi à faire quand j'étais sportif de haut niveau. Il m'a fallu des années pour comprendre que les autres avaient leur manière de fonctionner, qui n'était pas nécessairement la mienne et qui pouvait fonctionner aussi.
Tolérance aussi par rapport à soi d'ailleurs. Ne pas trop se punir, ne pas trop être violent par rapport à soi-même.
Tout à fait.
D'ailleurs, ça vous a été reproché que vous êtes parti aux États-Unis. On vous a reproché comme ça de quitter ce monde-là, de peut-être de chercher autre chose sans être conscient exactement de votre dette.
On m'a prêté des intentions qui n'étaient pas les miennes. En tout cas, ça c'est certain. Beaucoup de gens ont dit que j'étais parti pour l'argent. Ils savent pas que j'ai perdu la moitié de ma fortune en y partant. Ouais.
Non, mais vous êtes parti pour découvrir une autre part de vous-même.
Exactement. Plus que tout le reste, plus que la natation, je crois que c'était un voyage que je devais faire. Comme j'ai le sentiment ces jours-ci que le voyage que je dois faire, il est vers le zen effectivement, ouais. Pour y revenir. Et il est dans la littérature. Et je pense que
vous avez découvert Murakami, je crois récemment. Kawabata aussi.
Kawabata plus que Murakami, je l'avais lu déjà, j'en avais lu pas mal depuis ma prime jeunesse. Kawabata un petit peu plus, ouais. Kawabata et puis d'autres, ouais, effectivement.
Merci beaucoup Yannick Agnel pour ce voyage dans votre parcours. Je vais essayer de résumer votre philosophie de la vie pour nos auditeurs. On a compris que vous avez commencé squal, vous avez commencé volontaire, vous avez commencé dans un bras de fer. Et puis vous êtes devenu quelqu'un de beaucoup plus accueillant, tolérant, une sorte de moine qui sait que finalement, le doute n'est pas nécessairement l'ennemi de la confiance, mais peut-être aussi quelque chose qui permet de nourrir la confiance. On sent aussi un sens de la relation. Vous avez compris que finalement, on est en équipe, on est dans la qualité des liens, et que finalement, la performance n'a de sens que si elle est réconciliée avec la tolérance, avec le sens de l'humain et le sens de la relation. Finalement, tout ce que vous nous avez dit, c'est que la vie n'est pas quelque chose d'arrêté, elle est une existence qu'on réinvente sans cesse. Elle est un voyage, finalement, ce voyage que vous avez fait en vous-même, au fond des bassins, aux États-Unis, dans les jeux vidéo, à Marseille et ailleurs. Merci beaucoup, Yannick Agnel. Continuez à avancer, continuez à exister. Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot, avec à la technique Louis Audebert, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, illustration sonore Romain Couturier. Elle a été préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap et Aurore Juvenel. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sous le soleil de Platon, à 10h du matin exactement, dans la caverne de France Inter. Yannick Agnel, le mot de la fin, que nous conseille le squal devenu moine ?
De bien profiter des feux d'artifice ce soir et de le faire en famille. Pendant 10 ans, 15 ans, pas eu la chance d'être auprès des miens et je crois que c'est un des voyages les plus importants de sa vie, si ce n'est le voyage le plus important de sa vie.
Être ensemble, merci beaucoup Yannick Agnel. À suivre après le Flash Info, Place du Marché avec Antoine Lee en Loire-Atlantique. Bonjour Antoine.
Bonjour Charles. Aujourd'hui on est à Saint-Nazaire avec nos invités. On verra comment les paquebots vont devenir plus écologiques grâce à la voile et on rencontrera aussi des femmes étrangères qui s'intègrent grâce à leur talent culinaire.
Merci Antoine.